France Culture.
This is London.
À la recherche de Winston Churchill.
The Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill.
Pierre Assouline, Yvon Croisier.
Sir Winston Churchill, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire.
This is your victory. Of the cause of freedom is everywhere. In all our long history, we have never seen a greater day than this.
Quatrième épisode, Churchill, l'homme privé.
Impossible de partir à la recherche d'un autre Churchill sans faire la part de l'homme privé dans son intimité. L'artiste, aussi bien que le père de famille, le dépressif hyperactif, alcoolo-tabagique, aussi bien que le gentleman farmer. Et chez lui, lui qui avait été un grand nomade, ce n'était nulle part mieux que dans sa résidence secondaire de Chartwell, un endroit relativement modeste pour ce qui est de la maison, mais impressionnant pour tout ce qui touche au domaine lui-même, avec son côté arche de Noé, tant les animaux de toutes sortes s'y épanouissaient. Sir Winston avait pu l'acheter, mais comme il fut incapable de l'entretenir et de le conserver, quelques amis fortunés eurent la bonne idée, après la guerre, de se cotiser pour l'acquérir. Ils lui réservèrent l'usufruit, étant entendu que le tout serait légué, après sa mort, au National Heritage, autrement dit, les musées nationaux. Nous sommes à Chartwell, pour murmurer parce que l'endroit est quasiment magique, à défaut d'être secret. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la majesté de Blenheim Palace.
Vous êtes les Français?
Exactement, oui.
Venez avec moi.
Oui, merci.
Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui?
Alors,
vous parlez anglais?
Oui, mais si vous parlez français, c'est mieux parce que votre radio
parce
diffuse...
Parce que c'est pour les Français.
Oui, c'est une radio qui diffuse le plus souvent en
mais,
français.
Mais mon français n'est pas très bien.
Non, je ne trouve pas, je le trouve charmant.
Mon Dieu.
Ici, c'est l'entrée de la maison. C'est
oui,
une maison
oui.
que Churchill a achetée à quelle époque?
1922. Oui. Et il voulait acheter une maison dans cet environ, oui.
Cette
oui,
région.
Parce que c'est facile d'aller à Londres d'ici, ce n'est pas trop loin. Et il a vu la maison pour la première fois 3 ans avant de l'acheter.
D'accord.
Oui.
C'est intéressant parce que c'est relativement modeste comme
oui. ambiance. C'est une maison de famille, surtout. Oui.
Mais ce qui est frappant, Anne, c'est que ça n'a rien de luxueux ici.
Oh non.
C'est beaucoup plus le point de vue, le paysage.
Oui, et ici, il y a des fenêtres.
Partout.
Toujours, partout. Et on peut regarder la vue là-bas.
La vue est magnifique d'où qu'on soit. Oui. Est-ce que les tableaux au mur sont des tableaux de Churchill?
Oui. Le paysage. Ce sont les œuvres de Churchill,
c'est ça,
lui-même.
Ça ressemble
oui.
bien à ce
le sud de la France. Oui.
Dites-moi, c'est ce buste sur le bureau, ça oui. me rappelle quelqu'un?
Napoléon.
Lui-même?
Napoléon, il aime Napoléon et Nelson parce qu'ils étaient de très bons leaders.
On continue?
Oui.
J'aimerais parler un petit peu avec le biographe lui-même, François Kersaudy. Est-ce qu'il est nécessaire, quand on entreprend la biographie d'un tel personnage que Winston Churchill, d'être en empathie avec lui? Est-ce que ça a été votre cas en tant que biographe?
Bon, je l'ai fréquenté bien avant d'être son biographe, puisque j'ai été tour à tour scandinaviste, soviétologue et gaullologue. À chaque fois, je rencontrais Churchill. Et donc, par conséquent, je l'ai souvent vu à l'arrière-plan de mes travaux avant qu'il n'arrive au premier plan. Et à chaque fois, il y avait toujours une admiration qui pouvait être assez souvent critique, parce que c'était quand même c'était une force de la nature, mais qu'il fallait contenir, sinon ça pouvait faire des catastrophes. Et par conséquent, on a, je crois, pour Churchill, l'admiration qu'on aurait pour un enfant surdoué. On est admiratif parce qu'il dépasse tout le monde de la tête et des épaules, et on est critique parce qu'il peut être très inquiétant dans ses excès. Et c'est tout cela qui vous suit lorsque vous essayez de vous mettre à la place, ce que j'ai fait. Parce que dans une biographie, il faut absolument se mettre à la place du personnage. Il faut naître avec lui, il faut mourir avec lui. Quand c'est Churchill, c'est une belle aventure, c'est jubilatoire.
Est-ce que votre empathie pour un personnage aussi exceptionnel et génial que Churchill ne s'explique pas aussi par le fait que c'est un homme d'exception, mais à dimension humaine? Alors qu'un général de Gaulle, par exemple, qui est aussi génial, non pas qu'il soit inhumain, mais il est tellement au-dessus et tellement en dehors qu'on a du mal à se mettre à sa place.
Oui, alors ça c'est une très bonne remarque, parce qu'en fait il y a deux de Gaulle alors qu'il n'y a qu'un Churchill. Il y a de Gaulle l'homme privé et il y a de Gaulle l'homme d'État. Et l'homme d'État c'est la France, l'homme privé c'est Dupont. Et par conséquent, ça donnait d'ailleurs lieu à un certain nombre de quiproquos, parce que les Français ne comprenaient pas, et même ses ministres, souvent, ne comprenaient pas. Par exemple, quand il a été opéré de la prostate, ses ministres sont venus le féliciter à la sortie de l'hôpital, et lui était extrêmement choqué. Il a dit « Mais enfin, ce n'est pas la prostate de la France !» Et en fait, il a été opéré en tant que citoyen privé, donc il n'y a aucune raison qu'il soit félicité. Par contre, quand il a échappé à l'attentat du petit Clamart, là, il n'a pas été félicité, il était furieux aussi, parce que là, il a été mitraillé en tant que représentant de la France. Donc, il a été mitraillé dans sa fonction officielle. Donc, il aurait dû être félicité. Voilà, c'est deux rôles totalement différents. Avec Churchill, vous avez un Churchill. C'est-à-dire que le Churchill que vous avez dans sa représentation officielle, c'est le même que le Churchill que vous voyez chez lui à Chartwell. Et c'est ça qui, c'est aussi ça, d'ailleurs, qui le rend attachant. Il vous parlera dans son salon comme il parlera devant les bancs de l'Assemblée. Ce qui choque beaucoup de monde d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est toujours le même homme que vous voyez partout.
Philippa Rawlinson, vous êtes general manager de cet endroit churchillien, même churchillissime, qui est Chartwell, la maison de campagne de Sir Winston. Est-ce ici qu'on a le plus de chances de trouver l'esprit et l'âme de Churchill?
Oui, je pense. Churchill a acheté Chartwell au début des années 1920, quand il voulait une maison pour sa famille. C'était très important pour lui d'avoir une maison de famille, un endroit où lui et Clémentine pourraient élever leurs enfants, un endroit où ils pourraient toujours revenir. Car lui-même n'a jamais vraiment eu de maison, il était à l'école. Il voulait créer quelque chose que lui et sa famille n'avaient pas. Et Chartwell est l'endroit où il a choisi de le faire, en particulier car il s'agit d'un si bel endroit en Angleterre.
Mais surtout ce qui est frappant, c'est le côté intime, chaleureux de Chartwell.
C'était une maison très intime. Et les gens sont parfois surpris que ce soit une maison de famille si intime. Ils pensent qu'ils vont voir un autre palais de Blenheim. Et ils sont surpris, mais aussi ravis de voir le sens de la famille de Churchill, sa femme et ses enfants. Un endroit où ils passaient de bons moments privés, en famille ou entre amis.
N'était pas heureux quand il faut partir d'ici pendant la guerre. Il demeure à Londres pendant la guerre parce que c'était dangereux ici, parce que les avions allemands passent ici pour arriver à Londres. Ils ne peuvent pas demeurer ici. Et ils sont retournés ici, après la guerre, et il a changé l'usage de la salle à manger. Et c'était devenu un cinéma.
Ah bon?
Oui, parce qu'il aime les films.
En fait, c'est tout à fait la maison de campagne, même le cottage, tel qu'on l'imagine, avec du papier peint à fleurs partout, et avec des proportions très modestes.
Sorry.
C'est sa chambre ?
La chambre de Madame Churchill, oui.
Ils ne dormaient pas ensemble ?
Non. toutes les familles aristocratiques, oui, dormaient séparément, oui. Mais elle a dit qu'il peut entrer s'il frappait sur la porte.
Ah oui, effectivement. C'est pour ça qu'ils sont restés si longtemps ensemble. C'est touchant, c'est un lit à baldaquin.
Et il a dit qu'il voulait pour elle, je ne peux pas traduire, un aerial bower.
Un ange gardien?
Yeah.
Non.
Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça.
Et donc, de la chambre de Madame Churchill, on voit tout l'agencement très réussi des jardins, très harmonieux. Oui. Et surtout, un paysage à perte de vue qui rappelle, pardonnez-moi, la ville Colombey et deux églises.
C'est une très jolie chambre à coucher, je crois.
Bien entendu, ça manque d'avoir pas connu le personnage.
François Kersaudy.
Si je l'avais connu, ça aurait été à la fin de sa vie. Donc, ce qui est important, finalement, c'est de rencontrer les gens qui l'ont connu à diverses étapes de sa vie pour en avoir une image globale. Et j'ai effectivement non seulement lu les témoignages de gens qui l'ont connu à ces diverses étapes, mais je me suis entretenu avec beaucoup d'entre eux, des membres de la famille, des amis, des secrétaires, des généraux, des amiraux, des ministres. Et l'image qu'ils en donnent et qu'on finit par arriver à cerner, c'est celle, finalement, d'un être d'exception, ça ne fait aucun doute. Et tout le monde l'a reconnu, même de son vivant, même au début. On savait, on voyait bien tous les gens qu'il rencontrait, même à 20 ans, même à 30 ans. Ils savaient qu'ils avaient devant eux un homme exceptionnel. Ça, c'était très visible. L'image de l'homme qui se dégage, c'est de tous ces témoignages. C'est finalement celle de quelqu'un qui est, à bien des égards, resté un enfant. Un enfant insupportable, un enfant génial, avec la naïveté, mais en même temps le génie créatif d'un enfant surdoué, l'énergie invraisemblable de plusieurs enfants réunis, cette faculté de penser tout haut, et penser tout haut en termes magnifiques, poétiques. Tous les gens à qui j'ai parlé, on dit, mais on s'en est voulu toute notre vie de ne pas avoir noté à la volée tout ce qu'on entendait, tellement c'était extraordinaire. Il parlait tout seul, on lui servait en gros de faire valoir, mais ce qu'il pensait tout seul était extraordinaire, et ça se retrouvait d'ailleurs quelquefois 20 ans ou 30 ans après dans ses discours. Les formules qu'il pouvait trouver étaient des choses qui vraiment nous laissaient absolument pantois. Et puis, autre trait de caractère, évidemment, cette façon de raccourcir ses nuits, de fumer sans modération, de boire de même, cette bonne volonté à l'égard de tout le monde. C'était quelqu'un dont on pouvait dire qu'il était de bonne composition. C'est-à-dire que, en dehors des périodes de guerre, où c'était un autre homme, eh bien, c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il voulait que tout le monde soit heureux comme lui. Et il était content quand tout le monde était content. Autre chose, on en parle peu, mais qui est très important pour lui, les animaux. Il avait une relation très particulière aux animaux, à tous les animaux. Il adorait les animaux, il les traitait comme des êtres humains. Il avait des douzaines de chats, des chiens. Alors les chats, il y en avait partout. Il y en avait au Checkers, il y en avait à Chartwell, il y en avait à Downing Street. Il y a toujours un chat de service quelque part. Il leur parlait comme à des humains. Il y en avait qui s'appelait Nelson, alors il lui reprochait d'être indigne de son titre parce qu'il allait se cacher à chaque fois qu'il y avait des bombardements, voilà, donc ça c'est... Et puis il pouvait s'inquiéter, alors par exemple on lui disait, voilà, monsieur le Premier ministre, il y a une bombe qui n'a pas explosé à Hyde Park, il faut évacuer les locaux parce que si elle saute, on saute tous avec. Et Churchill reprend son travail... Mais juste avant, il s'inquiète pour les cygnes et les canards du parc d'à côté. Voilà, donc pour lui, ça n'a pas d'importance, mais les cygnes et les canards, là, il faut quand même les protéger. Tout est comme ça. Enfin, par exemple, dans les instructions qu'il donne pendant le bombardement de Londres, c'est quelles mesures ont été prises pour protéger les animaux du zoo pendant les bombardements. Vous voyez, c'est partie de ses préoccupations. Donc le règne animal a pour lui une importance absolument démesurée. Et pour lui, c'est comme les personnes. Ce sont des personnes, d'ailleurs.
Nous avons les cygnes noirs. Le gouvernement australien a donné à Churchill un couple de cygnes noirs. Et nous les avons toujours gardés, et vous pouvez les voir sur le lac des cygnes. Avez-vous vu les poulets quand vous êtes arrivés? Lady Churchill, aujourd'hui Mary Soames, avait des poulets. C'est pourquoi nous avons récemment réintroduit des poulets ici, que les enfants adorent. Churchill avait aussi des cochons, des moutons. Il adorait les animaux. C'était un homme très curieux et il trouvait que les cochons étaient très intelligents. Il adorait avoir des conversations avec eux. Il avait même des poissons tropicaux dans son bureau. Nous savons qu'à un moment, il devait avoir une douzaine d'aquariums dans son bureau.
Jean Blot, il y a chez Churchill un gentleman farmer, notamment essentiellement à Chartwell, qui est sa maison de campagne, mais qui est un véritable domaine, et qui est surtout un endroit où il élève énormément d'animaux. Il n'y a pas de dinosaures, mais il pourrait y en avoir un. Et quand il est dans sa correspondance, quand il est à l'étranger, ce qui lui arrive tout le temps, quand il voyage, même pendant la guerre, etc., il s'alarme tout le temps auprès de Clémentine, sa femme. Qu'est-ce que le cygne noir est devenu? Est-ce qu'on a nourri les oies? Est-ce que ça, c'est très anglais, ça? Cet attachement à la terre, aux animaux?
C'est très anglais. C'est plutôt des attachements... Comment vous dire? L'anglais est de la mer. Hein. Le latin est de la terre, le germain et le slave est des bois. Mais l'anglais, lui, c'est de la mer. Et donc, la terre est quelque chose de précieuse et de rare. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour moi, c'est une chose qui est très enseignante sur l'Angleterre. Comment les Anglais présentent les fruits? Vous savez, les marchés, comme ça. Les marchés dans la rue. On a toujours l'impression que c'est un objet rare, que c'est un objet précieux, que, etc. Enfin, on n'a pas du tout l'impression que c'est évident ou que c'est l'abondant. Ça, c'est un premier rapport. Le deuxième rapport, c'est le rapport des Anglais avec les animaux. Pour être méchant, je vous dirais que l'Anglais aime les relations superficielles et craint des relations plus profondes, et qu'évidemment, avec les animaux, on a nécessairement des relations relativement superficielles. En ce sens, ça les apaise. Le retrait, bon, vous savez, le retrait, c'est Cincinnatus, hein, il n'y a pas moyen de les tenir, ils vont toujours labourer. Dès qu'ils perdent le pouvoir, ils reviennent aussitôt lorsque le pouvoir leur revient. Mais je pense que, bon, dans le sang du duc de Malbrook, il devait bien y avoir une certaine passion pour la terre, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est une passion très différente de celle que l'on peut trouver en France ou dans les pays latins.
En même temps, il allait jusqu'à concevoir ses maisons. Il avait un côté maçon.
Ah oui, il avait un côté maçon. D'ailleurs, c'était un vrai maçon, puisqu'il avait sa carte de la fédération du syndicat des maçons. Et il a construit un grand nombre de ses mains, un grand nombre de cottages autour de Chartwell, sous diverses excuses. Il faut loger le jardinier, il faut faire un studio, etc. Et on le voit d'ailleurs à l'œuvre.
Ça lui venait d'où? Je veux dire, d'où tient-il cette compétence?
On ne sait pas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il a vu faire. Très souvent, il a acquis des compétences en voyant faire. Par exemple, c'est un peintre absolument fabuleux. Il s'y est mis à 40 ans en regardant faire et en étant un petit peu guidé par quelques grands peintres de l'époque. Il avait des dons latents qui se révélaient comme ça d'un seul coup. Et quand vous voyez ces peintures que vous avez dû voir à Chartwell, ça, c'est pas le travail d'un scribouilleur du dimanche. C'est vraiment des choses assez fabuleuses.
On sait quels peintres l'ont formé?
Il a eu des conseils en particulier du couple Lévry, qui étaient tous les deux des grands peintres de l'époque. Mais tout le monde s'est un petit peu penché sur son travail. Et il y a une chose qui est amusante, c'est qu'en 1922, il était à Cannes et il peignait une marine. Et comme toujours, il y a des badauds qui se rassemblaient autour, comme ça. Et puis, il y en a un qui s'approche, qui regarde et qui dit « C'est bien ce que vous faites, c'est bien. Vous devriez continuer, vous pourriez faire une bonne carrière dans la peinture. » Puis il s'en va. Et Churchill demande au badaud qui était là, qui est ce monsieur? Et il y en a un qui dit, oh, c'est un Espagnol, c'est une espèce de fada, il s'appelle Picasso.
Dans les brumes anglaises, il était attiré par le soleil de notre côte d'Azur, où il aimait aller se reposer et où il s'était fait de nombreux amis. L'un d'eux, M. Louis Audibert, peintre marseillais, a été un peu aussi son professeur. Daniel Lesky lui a demandé d'évoquer ses souvenirs.
Je l'ai connu au lendemain de la guerre de 14, au cours d'un séjour que je faisais à Cassis, et M. Churchill était venu se reposer à Cassis, passer quelques vacances. Alors, c'est au cours de ces vacances que j'ai connu M. Churchill par l'intermédiaire d'une dame anglaise qui était la fille d'un docteur anglais, Miss Oliver. Nous avons familiarisé tout de suite, nous avons parlé de la peinture et nous sommes allés peindre ensemble. Et presque tous les jours, nous allions ensemble faire des motifs sur nature. Alors, M. Churchill était très emballé. Il me disait que la peinture, pour lui, c'était... un délassement idéal, et puis alors il oubliait toute sa politique. Et Alors, je ne l'ai revu qu'au bout de quelques années après, on s'est séparés. Je l'ai revu alors quand il est venu faire un séjour à Aix-en-Provence, où je suis allé passer un moment avec lui.
Et est-ce que Winston Churchill était bon élève?
Ah, Churchill était très consciencieux, très bon élève. Il s'intéressait, il voulait un peu se renseigner sur toutes les techniques picturales. Il me posait toujours des questions et il travaillait très sérieusement.
Il a donc vécu à Roquebrune, près de Menton. Il avait accepté, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, d'être fait citoyen d'honneur de ce charmant village de la Côte d'Azur.
Prenez garde. Je vais parler en français. Mesdames, monsieur le préfet, messieurs les députés et sénateurs, messieurs les maires et conseillers municipaux et mes concitoyens, l'honneur que la municipalité de Roquebrune, Cap-Martin, me fait me touche profondément. J'ai passé parmi vous presque tout un hiver qui, d'après ce que l'on dit, n'a pas été le plus ensoleillé et le plus doux dans les annales de la Côte d'Azur. Mais malgré les plaies et les orages qui sont évoqués pour moi, les intempéries de mon pays, j'ai infiniment apprécié mon séjour à Roquebrune. Et l'accueil que vous m'avez réservé me sera toujours le plus agréable des souvenirs. Je crois pouvoir affirmer que j'ai toujours été un ami fidèle de la France.
En fait, Chartwell, ici, c'est le lieu où il y a le plus de tableaux de Churchill.
Nous avons peut-être moitié, peut-être, oui, je ne sais pas exactement.
De tout ce qu'il a peint, vous avez la moitié.
Il a fait 50
tableaux,
tableaux, oui.
Et vous en avez combien?
Peut-être la moitié, je ne sais pas. La troisième salle qu'il a fait avant d'entrer dans la maison, avant d'arriver ici.
C'est la salle à manger.
C'est la salle à manger, oui.
Et vous remarquez que tout est prêt pour le tea time.
Oui.
Pas pour le dîner ou le déjeuner,
non,
hein, c'est le thé.
Non, c'est, ouais, oui, c'est toujours pour le thé, oui, oui. Il y a ici un très fameux tableau qu'il a fait.
Ah oui?
Called The Bottlescape. Et il a fait
des bouteilles, des flacons.
Un Noël, quand il a devenu bored.
Fatigué, enfin.
Oui. Et il a demandé aux enfants d'aller retrouver toutes les bouteilles et les boîtes aux cigares dans la maison. Et ils les ont mis sur la table là-bas. Et faire le tableau.
Jean Blot, vous avez un avis sur le peintre Churchill?
Ah oui. J'ai un avis très amusé et très amusant, si j'ose dire, qui est le suivant. J'ai vu beaucoup de sa peinture à Madère. Il en a donné, on en a retrouvé, je crois même qu'il y a un petit musée à Madère de peinture de Churchill. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à la peinture d'Adolf Hitler. Que l'on pourrait très facilement prendre l'un pour l'autre.
Vraiment.
L'une et l'autre sont des peintures de jeunes filles qui sont de bonne famille et qui sont un peu trop sentimentales, mais qui sont l'une et l'autre très douées. Et ma critique, si j'ose dire, ou plutôt celle de mon oncle qui était critique d'art, qui avait fait un papier là-dessus, c'était que, justement, ces gens qui ont donné toute leur maturité, toute leur force, toute leur intelligence, hélas, pour Hitler, heureusement pour Churchill, dans un certain domaine, ont gardé une espèce de fraîcheur de cœur, je suis désolé pour Hitler, et de sensations et de sens, qui ressortent là dans cette peinture de jeune fille.
Donc pour vous, c'est un art assez naïf, non pas un art naïf, mais une certaine naïveté dans la manière de représenter le monde.
C'est une peinture de demoiselle de bonne maison. Voilà.
Tout est dit.
Tout est dit. Alors Jean Blot, j'en viens maintenant au rapport entre Albert Cohen, dont vous êtes le biographe inspiré, et Churchill. Est-ce qu'ils se sont rencontrés d'abord ?
Je ne le crois pas, tout au moins. Je pense que Cohen m'en aurait parlé, parce qu'il m'a beaucoup parlé, par exemple, de sa rencontre avec De Gaulle, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'ils se soient rencontrés. Vous savez, il a surtout écrit un livre qui s'appelle « Churchill d'Angleterre ». Aussi, me semble-t-il, s'il avait eu la chance de le connaître ou même de le voir, ce livre en aurait fait état. Et il a été écrit, comme le dit la prière d'inséré, sous les bombardements de Londres, c'est-à-dire dans les années 40. C'est écrit à la gloire de Churchill, bien sûr, mais aussi à la gloire de l'Angleterre, cet éblouissement de trouver, après le désastre que Cohen avait traversé en traversant la France, un peuple qui est résolu et qui, comme il l'écrit très bien, même dans ses rêves, n'a jamais songé à capituler.
Vous pourriez nous lire une page de Churchill d'Angleterre pour nous donner un petit peu le son d'Albert Cohen dans ce texte qui est quand même différent du son du romancier, j'imagine, ou de l'auteur de la lettre à ma mère. Enfin, c'est un autre Albert Cohen qu'on découvre là.
Pas tout à fait, pas vraiment. Si je voulais faire un mot, il a réussi en quelques lignes à faire de Churchill un valeureux et le cousin de Mangeclou. J'exagère un peu, mais ce n'est pas tout à fait faux. D'abord en l'accablant d'adjectifs, ensuite en découvrant en lui, il avait évidemment bien raison, un enfant qui se cachait, bien entendu, mais aussi très sensible à une sorte de bonté comme ça qui probablement se trouvait dans le personnage. Le dévouement, le bagou, tout ça le séduit beaucoup. Et vous verrez même, d'après cette page que je vais vous lire, que finalement, nous retrouvons certainement notre cher Albert Cohen. « Si grand qu'il soit, un peuple en péril a besoin de voir son âme et d'y croire. C'est alors seulement qu'il acceptera de mourir pour que son âme vive. La chance de l'Angleterre a été d'avoir eu devant elle le poète qui lui a montré l'âme d'Angleterre. Et la chance de Churchill a été d'avoir eu derrière lui l'Angleterre. Il a frappé. Et à travers la croûte des ans de torpeur et d'oubli, l'âme a jailli. Mon peuple, je t'ai regardé et tu m'as enseigné. Écoute, est-ce que tu m'as appris, mon peuple ? Avec la sainte ruse des prophètes, Churchill les persuade et les hypnotise d'eux-mêmes. Voici ce que vous êtes, sait-il leur dire au juste moment, et ils le croient aussitôt. Il les fait ce qu'ils sont. Par lui, ils deviennent ce qu'ils sont. Il les rehausse jusqu'à eux-mêmes, parce que Churchill le leur dit, ils savent qu'ils se battront sur leur rivage, sur leur terrain d'atterrissage, dans leurs rues et dans leurs champs.
Il y a un souffle. Hein.
Pardon. Ah oui, il y a le souffle, Cohen, ça, il n'y a pas de doute. Et alors, il y a des passages qui sont encore beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus cohenesques, là où il le décrit. Il le décrit, alors vraiment, je vous assure, c'est vieux comme un prophète, jeune comme un génie et grave comme un enfant. Je le regarde et ce haut gentilhomme, charnu, à la bouche bougonne et fermée, à la lèvre supérieure enfantine et résolue, à la lèvre inférieure, toutes les lèvres y sont, toutes bonnes et malignes, à la face large des bons et des vivants, vous voyez, aux épaules rondes, aux pas rapides, tout en chair et en rondeur, aimablement insolente, d'élégance vêtue, éternel marin, sans cesse sondant l'horizon avec l'air de se marrer intérieurement. Écoutez, on pourrait vraiment le présenter à Mangeclou, non? Vous ne croyez pas? Je suis sûr qu'il s'entendrait très bien.
Mais Albert Cohen voit Churchill comme un enfant.
Il le voit, oui, mais vous savez, Cohen voit tout le monde comme un enfant. Je veux dire, Cohen n'accepte de prendre au sérieux quelqu'un qu'à partir du moment où il a découvert en lui l'enfant, je crois. Et vous savez, il y avait un mot que c'est moi qui ai eu l'honneur de le lui apprendre dans les antimémoires de Malraux. À un certain moment, Malraux se trouve nez à nez avec un curé qui approche de ses 90 ans et qui donc a été pendant plus de 70 ans dans le confessionnal. Et Malraux lui demande « Enfin, qu'avez-vous appris, mon père, de toutes les confessions que vous avez entendues au cours de ces 6 ou 7 décennies ?» Et le curé lui répond tout de suite, sans la moindre difficulté, « Oh, mon fils, simplement qu'il n'y a pas de grande personne. »
Oscar Némon fit les beaux-arts à Bruxelles, dans la galerie des bustes qu'il sculpta, le roi Albert, Émile Van der Velde, Auguste Vormel et durant la guerre Paul-Henri Spaak. Oscar Némon, dont le visage en pointe évoque un peu un portrait du Gréco, fit aussi le buste de Churchill. C'était un ami personnel. Depuis quand connaissez-vous la famille Churchill et Churchill lui-même?
Depuis 1950, je l'ai rencontré par hasard à Marrakech, au Maroc. Mais plus tard, à l'année du couronnement, la reine a désiré qu'un buste soit fait de ce Winston et le choix est tombé sur moi. C'est ainsi que je fais un buste de lui et plus tard une statue qui se trouve au Guildhall. À la cité.
Quel était, pour vous qui l'avez bien connu, le trait dominant de Sir Winston Churchill?
Le trait dominant de Sir Winston Churchill était la défiance, comme en anglais.
Relever le défi, en somme.
Oui, le défi. Même en faisant sa sculpture à lui, il considérait ça comme un challenge.
Une compétition.
Une compétition à tel point qu'il disait, eh bien, si vous allez si je dois me rendre à cette... Alors vous aussi, vous allez vous rendre parce que je ferai votre sculpture pendant que vous faites la mienne. C'est ainsi... Il existe, la seule sculpture qu'il a jamais faite, c'était ma tête. C'était déjà un âge avancé et il n'a jamais poursuivi cette habileté. Et je suis sûr que s'il faisait la sculpture, il sera aussi un excellent sculpteur.
Est-ce qu'il était un bon peintre?
Oh, il était sans doute un bon peintre, mais la peinture l'intéressait surtout parce qu'il avait une grande curiosité de toutes les activités du domaine de la culture. Et c'était un homme essentiellement civilisé.
Et il a exposé d'ailleurs en France sous le nom de Charles Morin, et plusieurs de ses toiles ont été vendues sans qu'on sache de qui elles étaient. Et ces marines sont vraiment très impressionnantes, sa façon de peindre l'eau, la mer, les rivières, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Il y a une chose qui a beaucoup frappé ses compagnons d'armes quand il était dans les tranchées de la Somme, c'est que entre les bombardements et quelquefois pendant les bombardements, il sortait son chevalet et il se mettait à peindre le paysage. Et il était devant un village avec une ferme totalement pulvérisée, avec des trous d'obus partout. Et lui, au milieu d'une canonnade absolument effrayante, alors que tout le monde se terrait dans les tranchées, lui peignait ce qu'il voyait, les explosions, voilà, les trous d'obus. Et un de ses officiers raconte que pendant plusieurs jours, il était d'une humeur absolument insupportable. Et personne ne comprenait pourquoi. Et au bout de 5 jours, ils sont allés le voir. Il était toujours en train de peindre au milieu des explosions. Ils le voient avec un grand sourire de chérubin. « Qu'est-ce qui se passe, Winston ?» Et Churchill dit « J'ai enfin compris. J'avais un gros problème pendant 5 jours. C'est qu'à chaque fois que je peignais les trous d'obus, ça ressemblait à des taupinières. Et j'ai enfin compris qu'en mélangeant un petit peu de blanc à mes couleurs, ça ressemblait vraiment à des trous d'obus. » Et il était ravi. Et ça, c'est Churchill.
J'ai rencontré aussi Winston Churchill, mais très vieillissant.
Jacques Duhamel.
Mais je l'ai entendu raconter une histoire extraordinaire.
Quelle histoire ?
Il était somnolent. Et un de ses gens, pas l'ambassadeur Soames, je ne dirais pas l'autre, entend les personnes qui étaient là, les Français, dire « Écoutez, votre beau-père commence à se fatiguer un peu et c'est dommage de le voir vieillissant, enfin, vous devinez le reste. » Et à ce moment-là, le genre dit « Quand on le met sur les bons sujets, il est très éblouissant. Vous allez voir. » Il le secoue un petit peu, enfin, avec condescendance et quand même respect. Et Winston Churchill ouvre un œil, dit « Ouais ». Et à ce moment-là, son gendre lui dit « Si vous n'aviez pas été pendant la guerre, alors là, il ouvre les deux yeux. Si vous n'aviez pas été Winston Churchill, qui auriez-vous voulu être ?» Et en réfléchissant à peine, Churchill regarde son gendre et lui dit « Mussolini ». Étonnement général, et Winston Churchill précise « Oui, parce que lui, du moins, il a réussi à faire fusiller son gendre ».
Ici, nous sommes dans la cuisine de Chartwell. Est-ce que on sait, vous savez, Anne, ce que Churchill aimait comme cuisine?
Il n'aime pas de nourriture très élaborée, etc. Il aime simple cuisine.
L'important, ce n'est pas ce qu'il mangeait, mais ce qu'il buvait. Hein.
Oui.
On parle rarement de l'éducation de ses enfants. On peut se demander quand même s'il n'a pas raté leur éducation et quel genre de père de famille il a été. Pour vous, c'était un bon père de famille ?
Ça dépend de ce qu'on entend par un bon père de famille. Je crois qu'il a été infiniment plus affectueux avec ses enfants que son père et sa mère, d'ailleurs, ne l'avaient été avec lui.
François Kersaudy.
D'un autre côté, est-ce qu'il était fait pour être père de famille ? C'est une autre question. Il n'avait pas le temps. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'avait tout simplement pas de temps à consacrer. Et ses enfants ont, de toute évidence, pâti, non pas du manque d'affection, il était très affectueux avec ses enfants, mais du manque de temps qu'il avait à leur consacrer. Et pas seulement lui, d'ailleurs, son épouse aussi. Son épouse était une personne charmante, remarquable d'ailleurs, mais elle non plus n'était pas vraiment faite pour être mère, avait très peu de temps à consacrer à ses enfants. Elle était souvent malade, elle était souvent partie, elle avait d'autres intérêts, etc. Et donc les enfants ont été élevés par des nurses, par des amis, influencés par des amis de Churchill. Ce n'est pas forcément une bonne idée, en particulier pour ce qui est du fils Randolph. Ça a même été plutôt catastrophique. Ils ont été laissés un petit peu à eux-mêmes. Et bon, ça n'est quand même pas un hasard si 3 de ses enfants sur 4 sont morts alcooliques. Il y a quand même forcément quelque chose dans la façon dont ils ont été élevés qui n'a pas fonctionné. Donc beaucoup d'affection, très épisodique, souvent à distance. Et pour le reste, bien, ils étaient un petit peu laissés à eux-mêmes. Je pense que la seule qui a résisté à ce traitement, c'est Mary, peut-être parce que c'est la petite dernière, peut-être parce qu'elle a vu l'exemple de son frère et de ses sœurs, et qu'elle a décidé d'être un petit peu différente.
Peut-être aussi parce qu'elle a su trouver quelqu'un, Soames, qui lui permettent de se dégager un petit peu de cette emprise. Parce que être le fils ou la fille de Churchill, ce n'est pas facile non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire après, surtout si on choisit comme Randolph d'être un politicien, ce qui est quand même un choix très curieux, donc de suivre les traces d'un père qu'on ne pourra pas dépasser.
Oui, de ce point de vue-là, oui, vous avez raison. De ce point de vue-là, il y avait un très gros complexe, beaucoup plus d'ailleurs chez le fils que chez les filles. Il avait des dons. Il était courageux, comme son père, aucun doute. Il avait une très belle mémoire, comme son père et son grand-père. Malheureusement, ça avait sauté une génération. Il avait aussi hérité du caractère totalement insupportable de son grand-père et de l'alcoolisme vertigineux de son père comme de son grand-père. Et à la différence de son père, lui ne supportait pas l'alcool. Churchill était confit dans l'alcool du matin jusqu'au soir, mais il n'était jamais sous. Personne ne peut dire qu'il a jamais vu Churchill sous. Il était jamais. C'est un cas.
Fois, il y a eu quand même une fois au Parlement où ça lui a valu un certain nombre de déboires par la suite, parce qu'il a totalement vacillé et son discours est devenu inaudible.
Oui, son discours est devenu inaudible. Et puis surtout, il est venu à contre-temps. C'est-à-dire qu'en fait, il a posé une question à laquelle le Premier ministre avait déjà répondu. Donc, il y avait visiblement là une petite surcharge d'alcool. Mais en état d'ébriété totale, il ne l'a jamais été. Alors, son fils Randolph, lui, d'abord ne buvait pas la même chose. Et surtout, ne les supportait pas de la même façon. Donc lui, il était pratiquement sous en permanence. C'est beaucoup plus grave. Et il buvait d'ailleurs des choses que son père ne buvait pas, comme par exemple un litre de gin par jour. Et il les supportait très mal. Et donc lui, par contre, était sous.
Quelle a été la consommation d'alcool de Winston Churchill en moyenne?
Elle était phénoménale. Je vais essayer de faire un total. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce qu'il y a le whisky qui apparaît dès le petit déjeuner. Il peut y avoir aussi du vin blanc. Il y a du champagne à 11h. Il y a le sherry avant le déjeuner. Il y a le champagne et le vin blanc pendant le déjeuner. Il y a le cognac après le déjeuner. Il y a le whisky and soda pendant tout l'après-midi, sauf entre 15h et 16h, mais pas parce qu'il était sobre, mais simplement parce qu'il faisait la sieste et donc il ne buvait pas en dormant. Il y a encore du whisky and soda jusqu'au dîner. Au dîner, vous avez une répétition de ce qui se passe au déjeuner, donc avec le sherry, le champagne, le vin blanc, le cognac, etc. Et le porto, il ne faut pas oublier le porto. Ensuite, vous avez tard dans la nuit, vous avez encore évidemment le whisky and soda, etc. Le champagne, parfois vers 3h du matin. Et puis, quand il va se coucher, il y a les somnifères qui passent avec un petit peu de whisky aussi.
Donc, voilà. Tout cela en commençant à 20 ans et en terminant vers 90 ans.
Exactement. Encore, vous êtes gentil, commençant à 20 ans, moi je vous ferais plutôt commencer à 17 ans, hein, peut-être plutôt même à 16.
Est-ce que son alcoolisme était également motivé par le fait qu'il était profondément dépressif? Ce qu'on appelle le black dog pour les Anglais, qu'est-ce que c'est exactement par rapport à la dépression et par rapport à cette mélancolie qui le minait quand même de temps en temps?
Oui, alors c'est une dépression dont on pense qu'elle a été héréditaire, puisque apparemment tous ses ancêtres ont souffert de la même chose. C'est effectivement, ce sont des accès de dépression pendant lesquels il peut y avoir des tentations suicidaires, il y a des idées noires, il est persuadé d'avoir tout échoué, il a la tentation de tout abandonner, etc. Exactement comme tous ses ancêtres, depuis son père pratiquement jusqu'au grand Marlborough lui-même, qui lui avait pas trop le temps. Mais bon, tous les autres ont été dans ce cas-là. Il avait deux remèdes, il avait l'alcool, donc à dose respectable, et il avait l'hyperactivité. C'est-à-dire, tant qu'il était en mouvement et qu'il y avait une grande cause à défendre, le black dog ne pouvait pas s'imposer. C'est au moment où il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait rien de particulier à faire, qu'il était laissé seul, qu'on ne le considérait pas, qu'il était en dehors du gouvernement, qu'il n'avait pas de grande cause à défendre. Là, effectivement, le black dog pointait le bout de son museau et il ne le supportait pas. Comme pour beaucoup de politiciens, ils considèrent que le pouvoir, le pouvoir est une drogue. Et donc, ils considèrent que quelque part, quand il en est tenu éloigné, pour lui, c'est une brimade. Donc, comme avait dit un de ses amis, il est exactement comme un enfant auquel on a retiré son jouet. Voilà. Et donc là, il n'a plus qu'un désir, c'est de revenir au pouvoir.
On a le sentiment, François Kersaudy, que peut-être la fin aurait pu être mieux préparée et qu'il aurait gagné Churchill à ne pas s'accrocher au pouvoir dans les dernières années, à se retirer plus tôt. Ce n'est pas votre avis ?
S'il ne s'est pas retiré plus tôt, c'est parce qu'il considérait qu'il avait une mission. Et sa mission était de ramener la paix entre l'Union soviétique et l'Occident. Et il pensait qu'étant avec Staline le seul survivant des grands dirigeants de la guerre, il était le seul à pouvoir le faire. Et que les autres, y compris Eden, n'en seraient pas capables. Bon, on a vu ça chez beaucoup de politiciens âgés, cette idée qu'ils étaient indispensables et que leurs successeurs ne seraient pas à la hauteur. Si vous voyez Adenauer, vous avez un petit peu la même chose. Et il y avait l'idée quand même que tant qu'il était là, il protégeait la Grande-Bretagne de la tentation de la médiocrité. C'est une chose qu'on retrouve chez un autre personnage bien connu chez nous. Et qu'à partir du moment où il s'en irait, l'Empire, évidemment, s'effondrerait et la Grande-Bretagne reviendrait à sa médiocrité des années 20 et des années 30. Et ça explique aussi pourquoi il a tant tardé à se retirer. En plus de une de ses innombrables intuitions, puisque Churchill est un homme qui toute sa vie a eu quantité invraisemblable d'intuitions prophétiques, j'en avais fait un recueil d'ailleurs, qui sont quelquefois effrayantes d'ailleurs, mais pratiquement au moment de se retirer, il a dit d'Eden, il aimait beaucoup Eden, c'était son dauphin, c'était pratiquement son fils spirituel, mais il a dit au moment de se retirer, je ne crois pas qu'Eden y arrivera. Et un an après, effectivement, Eden n'y est pas arrivé. Intuition fulgurante. Et c'est encore une raison pour laquelle il s'est accroché au pouvoir. Il a dit j'ai la faiblesse de me croire indispensable. Bon, beaucoup de gens de son âge sont comme ça. Et donc, est-ce qu'il aurait dû se retirer plus tôt ? Ça aurait voulu dire que bon, il aurait eu une vision de tout ce qui s'est passé. C'est très difficile de savoir quand se retirer à temps. Et par conséquent, il a fait de son mieux. Et ma foi, c'était déjà pas si mal. Il se serait retiré un an avant, ça n'aurait peut-être pas été si mal non plus.
Ce sont les uniformes honorifiques qu'il porte une fois, deux fois peut-être, mais pas beaucoup de fois.
Donc ça, c'est très important.
Oui, c'est l'ordre du garde qu'il a été présenté avec ça au moment où il est retiré.
Quand il a pris sa retraite en 1955.
Quand il était premier ministre à ce point-là.
C'est très beau, hein,
la ceinture. Oh oui, oui, oui.
Avec la devise.
Oh oui, l'histoire qui mal y pense. Il faut expliquer à beaucoup de gens ce que ça veut dire, vous comprenez. Mais,
Anne, vous voulez dire que la devise « On y soit qui mal y pense », il faut l'expliquer aux gens qui viennent.
Oui, quelquefois, oui.
Ici à Chartwell.
Shame on him who thinks he loves it.
Shame on them, yeah.
Oui, oui.
Comment vous expliquez aux gens?
Oh, je dis que c'était... La dame au bal a perdu
sa jarretière
et le roi a retrouvé et il lui a donné. Tout le monde dit oh, 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 oh. Ils ont rié, oui, comprenez. Il a dit on y soit qui mal y pense, shame on him who thinks ill of it. You know, in other words, you should be ashamed of yourselves for making dirty digs and jokes.
Vous devriez avoir honte de penser des
oui.
choses pareilles.
C'est ça, oui.
Ah, ça vient de là. Oui. Finalement, c'est terriblement grivois tout ça. Bon.
Oui.
Vous avez épluché pour vos travaux sur Churchill et sur l'Angleterre la plupart des archives consultables On peut imaginer qu'il y en a encore qui ne sont pas tout à fait consultables, qui sont classified, et il y a des correspondances qu'on ne connaît pas. À votre avis, dans ce qu'on trouvera d'ici à 20 ans sur Churchill, est-ce qu'il y aura des choses qui peuvent éventuellement remettre en cause notre vision du personnage où, en principe, tout est en place ?
Je ne crois pas qu'il y aura grand-chose qui remette en question son image. Ce qu'on verra certainement, c'est que à partir du moment où il était dans une situation de guerre et où tout pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre, il a dû prendre un certain nombre d'initiatives qui, de nos jours, ne nous paraîtraient pas politiquement correctes. On est passé à la guerre de zéro mort. Il n'y avait pas moyen à l'époque de faire des guerres de zéro mort. Et Churchill avait compris depuis très longtemps que quand on faisait une guerre, il y avait des morts. Et que un certain nombre d'initiatives qui seraient déplacées en temps de paix devaient être prises en temps de guerre. Et par conséquent, on trouvera que en temps de guerre, il n'était pas très gentil. Mais quelqu'un qui est gentil en temps de guerre, c'est très inquiétant. Hein. Et par conséquent, si les documents qu'on trouve sont correctement exploités, si on ne fait pas de gros contresens, si on se replace bien dans le contexte de l'époque, on verra que c'était quelqu'un de profondément humain et bienveillant en temps de paix, et que c'était quelqu'un d'extraordinairement agressif et belliqueux en temps de guerre. Ce qui est évidemment quand même beaucoup mieux que le contraire.
Ici Londres. Le Premier ministre, Monsieur Winston Churchill, parle aux Français.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle.
I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'eau, car l'eau viendra, elle se lèvera. Brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert.
À la recherche de Winston Churchill. Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série, l'artiste, le retraité actif et puis aussi l'homme privé, le gentleman farmer. Prise de son Yves Lehors, Tanguy Le Corneau, Jean-Richard Dufour, Virginie Cassagne, Alain Joubert, Pierre Monteil, Jean-Louis Deloncle. Archivina Sabine Dayuron. Traduction et documentation Inès Benslaba. À la recherche de Winston Churchill, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.